Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Nous avons besoin d'espérance pour vivre. Et à travers l'étude de la Bible, nous désirons vous encourager à fonder votre espérance sur Jésus-Christ.
Nous continuons aujourd'hui nos discussions sur la vie d'Abraham. Robert ne peut pas intervenir aujourd'hui. C'est pourquoi Yann va poursuivre cette étude lui-même et je lui poserai quelques questions. La dernière fois, nous avons appris comment Abraham a pu approfondir sa connaissance de Dieu à travers les noms par lesquels Dieu s'est révélé. Nous avons conclu que Dieu est grand, mais aussi qu'il est proche de son peuple, qu'il s'intéresse à lui et qu'il fait preuve de compassion et de miséricorde. Nous n'avons pas épuisé notre sujet et il nous reste deux noms de Dieu que nous n'avons pas eu le temps d'aborder la dernière fois.
C'est juste. Ces deux noms sont d'abord le Tout-Puissant et ensuite Yahvé Jireh, qui se traduit « l'Éternel pourvoira ».
Et à quel moment dans la vie d'Abraham, Dieu se présente-t-il comme le Tout-Puissant?
Ce nom apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 17. Abraham est alors âgé de 99 ans. Et il n'a toujours pas eu d'enfant de sa femme Sarah, alors que l'Éternel le lui avait promis. Nous pouvons imaginer que la foi d'Abraham commençait à fléchir. Il est vrai que lorsqu'une situation, apparemment sans issue, commence à traîner pendant de longues années, nous pouvons douter de la puissance ou du bon vouloir de Dieu. Alors, Dieu apparaît de nouveau à Abraham pour réaffirmer sa promesse. Une promesse qui semblait aller contre nature et contre tout bon sens. Abraham et Sarah auront un enfant dans leur vieillesse. Et pour souligner le fait que cette promesse allait s'accomplir, Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant.
Et pourquoi fallait-il que Dieu insiste sur le fait qu'il est le Tout-Puissant?
Dieu rappelle simplement qu'il est entièrement capable de réaliser ses promesses, même s'il s'agit d'accomplir un acte que les hommes et les femmes ne pourront jamais réaliser. Quand Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant, il affirme qu'il est capable de mener ses promesses à leur accomplissement. Ce qui semble impossible à nos yeux est possible pour Dieu. Il peut agir pour changer le cours de nos vies. Aux situations qui semblent désespérées et sans issue, Dieu peut accorder une conclusion favorable par l'intervention de sa Toute-Puissance dans notre histoire personnelle et dans nos conditions de vie. Quand Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant, cela veut dire aussi qu'aucune puissance et aucun pouvoir, que ce soit humain, naturel ou surnaturel, ne peut empêcher Dieu de conduire sa volonté à son terme. Rien, ni personne ne peut s'opposer à Dieu. Ce qu'il a promis, il le fera en son temps.
L'histoire d'Abraham constitue une preuve de ce fait, me semble-t-il. Pouvez-vous nous rappeler comment?
Oui, Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham. D'abord, il aura un fils. Ensuite, sa descendance deviendra une nation avec ses propres terres. Et enfin, une personne issue de sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Contre toute attente naturelle et humaine, Abraham effectivement eu un fils de Sarah dans sa vieillesse. Ce fils fut appelé Isaac. Dieu a montré ainsi qu'il est effectivement tout-puissant. Les descendants d'Isaac ont formé plusieurs tribus qui sont devenues des esclaves en Égypte. Et contre toute attente politique et militaire, Dieu a délivré ce peuple de l'esclavage et les a conduits jusqu'à la terre promise, où il devint la nation d'Israël. Vous pouvez lire le récit dans la Bible, dans les livres nommés Exode et Josué. Une fois de plus, Dieu a montré qu'il est tout-puissant. Enfin, en ce qui concerne le descendant d'Abraham, qui deviendra une bénédiction pour toutes les nations, il s'agit de Jésus-Christ. Et les généalogies trouvées dans les évangiles de Luc et Matthieu établissent bien qu'il est un descendant d'Abraham. Jésus a apporté la bonne nouvelle que la réconciliation avec Dieu est possible pour toute personne qui met sa foi en lui. Toutes les grandes puissances de l'histoire, dont plusieurs se sont acharnées contre le peuple de Dieu, n'ont pas pu empêcher ses promesses de se réaliser. Dieu est bel et bien le Tout-Puissant.
C'est rassurant de savoir que si nous mettons notre foi dans ce Dieu, nous sommes entre de bonnes mains, et d'autant plus que nous avons déjà appris qu'il est compatissant et miséricordieux. Il est attentif à nos besoins, aux circonstances de nos vies. Même si nous subissons parfois injustice et humiliation, Dieu met en œuvre sa toute-puissance pour assurer notre sécurité éternelle. Maintenant, il ne nous reste qu'un seul nom. Rappelez-nous de quoi il s'agit et dans quelles circonstances il apparaît dans le récit de la vie d'Abraham.
Oui, il s'agit de Yahvé Jiré. Autrement dit, Dieu pourvoira. Nous le rencontrons dans Genèse chapitre 22. Dans ce récit étonnant où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, le fils né pour accomplir la promesse de Dieu.
Cet ordre de la part de Dieu qui demande à un père de tuer le fils qu'il a attendu si longtemps semble cruel. Il semble aller à l'encontre de ce que nous savons de Dieu, de sa compassion et de sa miséricorde. Et de surcroît, il semble mettre en danger toutes les promesses de Dieu à l'écart de ce fils. Comment comprenez-vous cet épisode?
Il est vrai que ce récit suscite de nombreuses questions. Il est intéressant de noter que lorsqu'ils étaient tous les deux sur le chemin pour aller faire ce sacrifice, Isaac demande à son père « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Cette question trouve la réponse suivante, et je cite la Bible de nouveau. « Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. » En fait, c'est ce qui s'est passé. Abraham ligote son fils. Il est sur le point de plonger son couteau dans sa gorge quand Dieu l'interpelle pour l'interrompre et lui montrer un bélier dans un buisson à côté.
Donc la fin de l'histoire montre que Dieu était à la hauteur de son nom. Dieu a pourvu un animal pour le sacrifice à la place d'Isaac.
Oui, c'est exact. Nous ne savons pas à quoi Abraham pensait au moment où il a dit « Dieu pourvoira ». Mais nous pouvons supposer qu'Abraham était persuadé que malgré les perspectives plutôt sombres de la situation, Dieu accordera une issue favorable, une issue qui assurera la continuité des promesses de Dieu. En cela, Dieu pourvoira. Abraham en était convaincu.
Quelle est l'importance de ce nom « Dieu pourvoira » aujourd'hui?
Nous devons comprendre cet incident dans le contexte plus large de la Bible entière. Dieu a pourvu au salut d'Isaac, dans le sens qu'Isaac était condamné à mourir. Dieu a pourvu un animal pour le sacrifice à la place d'Isaac. Ainsi, Isaac a été épargné. Dans un sens, il est revenu de la mort à la vie. Ici, nous avons une image du salut que Dieu a pourvu par le biais du descendant d'Abraham et d'Isaac, c'est-à-dire Jésus. Par nos fautes, nous sommes tous condamnés à une mort éternelle. Mais Dieu a pourvu un sacrifice, Jésus lui-même, qui est mort sur la croix en portant le poids de nos offenses. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons revenir de la mort à la vie. Dès aujourd'hui, nous pouvons revivre spirituellement, et notre mort physique ne sera plus qu'un passage vers la résurrection à la vie éternelle. Le nom « Dieu pourvoit » s'applique d'abord et surtout au fait que Dieu a pourvu à notre salut en Jésus-Christ et qu'il a ainsi accompli la promesse faite à Abraham, selon laquelle l'un de ses descendants apportera la bénédiction, celle du salut, à toutes les nations de la terre.
Croyez-vous comme Abraham à un Dieu qui pourvoit? Dieu a pourvu lui-même à votre salut en envoyant son propre fils sur la croix. Croyez en cela et vous passerez de la mort à la vie.
Maintenant, lors de sa méditation biblique, Youve nous rappelle la mission confiée à Jésus-Christ par Dieu. Hélène va d'abord lire le texte biblique, trouvé dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 17 et 18.
On donne à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Il ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres.
Les pauvres n'ont pas accès aux produits de luxe, n'ayant pas les moyens de se les payer. À peine ont-ils de quoi subsister au jour le jour. Les pauvres n'ont pas accès auprès des puissants de ce monde. Ils sont ignorés des grands et souvent victimes d'injustice et d'oppression. Certains d'entre vous en savent quelque chose. Pour les pauvres, il y a rarement de bonnes nouvelles. Jésus, quand il annonce la mission qu'il doit accomplir dans la puissance de l'Esprit, déclare que Dieu l'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. À l'époque de Jésus, les pauvres en Israël étaient confrontés aux injustices infligées par l'ennemi occupant. L'Empire romain, qui les assujettissait tous à une imposition très lourde. Les pauvres avaient du mal à assurer leur subsistance, mais certains espéraient que Dieu pourvoirait et ils n'ont pas été déçus. Les temps n'ont pas changé, et fort heureusement, Jésus n'a pas changé, car la bonne nouvelle qu'il a apportée aux pauvres de son temps demeure valable et appropriée pour aujourd'hui. En quoi consiste donc cette bonne nouvelle apportée par Jésus? D'abord, Dieu pense aux pauvres et il a compassion d'eux. Loin d'être ignoré ou laissé de côté, Dieu accorde de l'importance aux pauvres ainsi qu'à leurs conditions de vie. Ensuite, même si les pauvres ne sont pas forcément bien reçus par les grands de ce monde, ils peuvent, par la foi en Jésus-Christ, trouver un libre accès à la présence du Dieu Tout-Puissant. En Jésus, Dieu offre le pardon. Il fait de nous ses enfants et nous pouvons connaître en lui un Père compatissant et miséricordieux. Les pauvres sont privés des richesses de ce monde, mais Dieu leur offre une richesse encore plus précieuse. La connaissance de sa propre personne, l'expérience de son salut par la foi en Christ et la promesse sûre et certaine d'un merveilleux avenir, à l'avènement du royaume de Dieu où régnera justice, paix et abondance éternellement. Il arrive trop souvent dans ce monde malheureux et tordu que les pauvres perdent du peu qu'ils ont, à cause des injustices commises par des puissants. Il y a encore une bonne nouvelle. Personne ne pourra jamais s'emparer de vos bénédictions spirituelles du moment que vous les avez reçues par la foi en Jésus. Notre bien le plus précieux, c'est donc tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le plus merveilleux, c'est que nous n'avons pas à l'acheter ni avec de l'argent, ni avec le travail de nos mains. Ce bien a tellement de valeur que même l'homme le plus riche du monde ne pourrait jamais l'acheter. Toutefois, Dieu nous l'offre gratuitement. Il suffit de croire en cette bonne nouvelle apportée par son Fils.
La véritable richesse ne réside pas en ce que nous possédons, mais en qui nous croyons. Car le plus grand trésor est de savoir que Dieu est notre Père céleste et qu'il réserve pour nous un héritage inimaginable dans la vie éternelle.
Jésus est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi la liberté aux prisonniers. Yuva en parlera la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.